Où est la comtesse Mao? Où est la comtesse Mao? Criaient les barons. Il faudra bien qu'elle nous entende. Nous savons qu'elle se trouve ici. Nous avons suivi son char. Les choses commençaient à s'éclaircir pour Jeanne. Ce n'était pas à sa vie spécialement que les braillards en voulaient. Son premier mouvement de frayeur passé, la colère lui vint à la gorge. Le sang des Artois se réveillait en elle. « Je suis la comtesse de Poitiers !» s'écria-t-elle. « Et le char que vous avez vu me transportait. J'apprécie peu qu'on pénètre avec tant de fracas dans le lieu où je suis !» Comme les insurgés ignoraient qu'elle fût sortie de prison, cette annonce imprévue les rendit un moment silencieux. Ils allaient décidément de surprise en surprise. « Voulez-vous me dire vos noms ?» reprit Jeanne. « Car j'ai coutume de ne parler qu'aux gens qui me sont nommés, et j'ai peine à savoir qui vous êtes sous vos harnois de guerre. »« Je suis le sire de Soestre, » répondit le meneur au gros sourcil roux, « et celui-ci est mon compain Caumont. Et voici monseigneur Jean de Fienne, et messire Saint-Venant, et messire de Longvilliers. Nous cherchons la comtesse Mao. Comment ?» coupa Jeanne. « Je n'entends que nom de gentilhomme. Je n'aurais point cru à votre manière d'en user avec des dames. » Qu'il vous conviendrait de protéger, et non d'assaillir. Voyez, madame de Beaumont, qui est grosse, presque à mètre bas, et que vous venez de faire pâmer, n'en avez-vous point honte ? Un flottement se dessina parmi les alliés. Jeanne était belle, et sa manière de tenir tête leur en imposait. Et puis, elle était la belle-sœur du roi et paraissait revenue en grâce. Jean de Fienne, le mieux né et le plus important de ses seigneurs, se souvenait d'avoir vu Jeanne naguère à la cour. Il l'assura qu'il ne lui voulait aucun mal. Leur expédition ne visait que Denis d'Hirson parce qu'il avait juré qu'il reniait son frère et ne tenait pas son serment. En vérité, ils avaient espéré prendre Mao dans un piège et la contraindre par la force. Pour se venger de leur déconvenue, ils mirent la maison au pillage. Pendant une heure, le manoir de Vitz résonna du fracas des portes claquées, de l'éventrement des meubles et des bris de vaisselle. On arrachait les murs tapisseries et tentures, on raflait l'argenterie sur les crédences. Puis, un peu calmés mais toujours menaçants, les insurgés furent remonter Jeanne et ses femmes dans le grand char doré. Soestre et Caumont prirent le commandement de l'escorte, et le char, environné d'un bruissement d'acier, s'engagea sur la route d'Edin. Les alliés de cette façon étaient sûrs maintenant de parvenir jusqu'à la comtesse d'Artois. À la sortie du bourg d'Everny, distant d'environ une lieue, un arrêt se produisit. Quelques alliés, lancés à la recherche de Denis d'Hirson, venaient de le rattraper au moment où il essayait de franchir l'Authie en traversant les marécages. Il apparut crotté, battu, saignant, enchaîné et titubant entre deux barons à cheval. « Que vont-ils lui faire ? Que vont-ils lui faire ?» murmura Béatrice. « Dans quel état l'ont-ils mis ?» Et elle commença de prononcer à voix basse de mystérieuses prières qui n'avaient de sens ni en latin ni en français. Après quelques palabres, les barons décidèrent de le garder comme otage en l'enfermant dans un château voisin. Mais leur fureur meurtrière avait besoin d'une victime. Le sergent Cornillot avait été pris en même temps que Denis. Or, ce même Cornillot, pour son malheur, avait participé quelque temps auparavant à l'arrestation de Soestre et de Caumont. Ceux-ci le reconnurent et les alliés exigèrent qu'on lui régla son compte sur le champ. Mais il fallait que sa mort servît d'exemple et donna à réfléchir à tous les sergents de Mao. Certains préconisaient la pendaison, d'autres voulaient que Cornillot fût roué, d'autres encore qu'il fût enterré vif. Dans une grande émulation de cruauté, on discutait devant lui de la manière dont on allait le tuer, tandis qu'à genoux, le visage en sueur, le sergent braillait son innocence et suppliait qu'on l'épargnât. Soestre trouva une solution qui mit tout le monde d'accord, sauf le condamné. On alla chercher une échelle, on hissa Cornillot dans un arbre et on le lia par les aisselles. Puis, quand il eut gigoté un bon moment pour la joie des barons, on coupa la corde et on le laissa tomber sur le sol. Le malheureux, les jambes brisées, hurla tout le temps qu'on creusa sa tombe. On l'enterra debout, sa tête seule émergeant, où roulaient des yeux fous. Le char de la comtesse de Poitiers attendait toujours au milieu du chemin et les dames d'escorte se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre les cris du supplicié. La comtesse de Poitiers se sentait défaillir, mais n'osait intervenir, de peur que la colère des alliés ne se retournât contre elle. Enfin, Soestre tendit sa grande épée à l'un de ses valets d'armes. La lueur de la lame brilla au ras du sol, et la tête du sergent Cornillot roula sur l'herbe, tandis qu'un flot de sang, jailli comme d'une rouge fontaine, arrosait alentour la terre meuble. Au moment où le char se remit en route, la dame enceinte fut prise de douleur, elle commença de hurler, en se renversant en arrière. On sut aussitôt qu'elle n'irait pas au terme de sa grossesse.